reçois Cécile et Mélusine de Droguette 61. Pour commencer cette interview, est-ce que vous pourriez vous présenter à toutes les deux à nos auditeurs ?
Eh ben, comment dire nous concernant ? Donc, je suis Cécile Vadreau, je suis éducatrice spécialisée à Droguette. Mon rôle, il concerne l'ensemble des activités à ce jour. À savoir, j'accueille les personnes au Carude, donc sur le site d'Alençon. J'anime quelques actions de prévention auprès des jeunes publics ou publics adultes. Et puis, j'organise et j'anime des stages de sensibilisation au danger de l'usage de stupéfiants auprès de mineurs et de majeurs interpellés pour usage et habitants sur le département.
D'accord. Et toi, Mélusine ?
Alors moi je suis CESF, je suis présente au Carude depuis un mois et je suis chargée de l'accueil et de l'animation au sein du Carude.
Ok, mais donc le Carude c'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue.
C'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Donc en première question, comment se déroule cet accueil ?
Eh bien cet accueil se déroule par une première question, qu'est-ce qui vous amène ? Quand ça sonne à la porte, comment dire, bien souvent les gens viennent chercher du lien social. Alors, avant de préciser comment on accueille les personnes, d'abord, le Carude est assuré 5 demi-journées par semaine. Donc, 2 journées entières, les lundis et jeudis, et le vendredi après-midi.
D'accord.
Ensuite, toute personne consommatrice de produits licites ou illicites peut s'adresser au service, en sachant que notre mission, c'est d'abord de limiter les risques de contamination, hépatite C, VIH et autres infections en lien avec l'usage. Donc pour y répondre, on met à disposition des usagers du matériel correspondant à leur façon de consommer, donc soit en sniff, soit en injection, soit en inhalation. En fait, c'est du matériel qui n'a pas pour vocation d'inciter l'usage, mais vraiment de réduire les risques associés.
D'accord, donc les maladies transmissibles.
Les maladies transmissibles par le sang, lorsqu'on partage une seringue par exemple, ou lorsqu'on se fait des plaies à la bouche parce qu'on inhale du crack, pour le nommer, ou bien quand on sniffe, en fait on peut se créer des contusions au niveau des voies nasales, et si on partage le matériel, même une paille, on peut être contaminé à l'hépatite C.
Oui, qui se transmet par muqueuse.
Muqueuse et voie sanguine aussi.
D'accord. Aussi, quel type de public vous accueillez ? La plupart du temps, est-ce que c'est plus des jeunes ou plutôt des pré-adultes, on va dire ?
En fait, dans notre fil actif 2024, et ceci depuis plusieurs années, on a un public plutôt âgé. 2024, la moyenne d'âge est 40 ans. Autant pour les femmes que pour les hommes, même âge.
D'accord. Est-ce que la majorité de ce public était des gens qui ne connaissaient pas ces services que vous proposiez ? Donc plus précisément, ces centres d'accueil et d'accompagnement ?
Alors ça me renvoie à la question, comment connaissent-ils Droguette ? Souvent par le bouche à oreille, voire par les partenaires médico-sociaux du bassin d'Alençon, surtout.
D'accord. Et j'ai lu que cet accueil, il est gratuit et surtout, il est anonyme. Ça doit être important pour les gens qui viennent vous voir quand même.
Tout à fait. En fait, pour pouvoir reconnaître, connaître et reconnaître, on propose aux gens qui franchissent le seuil de donner un pseudo.
D'accord.
Ce pseudo qui nous permet également d'enregistrer leur passage et le matériel mis à disposition. Parce que la structure Carude est financée par l'ARS, à qui on doit des comptes en termes de files actives et de matériel acheté aussi tous les ans.
D'accord. Et je sais que fut un temps dans ce genre de centre d'accueil et d'accompagnement, en fait le problème c'était les gens qui rentraient, ils étaient surveillés à l'extérieur. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Alors c'est une crainte exprimée par les usagers qui viennent au service. En fait, moi ça fait 27 ans que je travaille à Droguette. Dans l'expérience du Carude qui existe depuis 2006 d'ailleurs. On n'a jamais eu de situation renvoyant à une observation. Après, comme l'usage de stup est interdit, il peut y avoir effectivement des gens sous filature, quoi. Mais ça, on n'en a pas connaissance.
Oui, c'est normal. Mais vous essayez d'amoindrir la chose quand même.
Disons que quand une personne vient, on ne lui demande pas son nom, son prénom, ni son numéro de sécurité sociale. Donc quand bien même il pourrait y avoir une enquête, chose qui ne nous est jamais arrivée, mais qui pourrait avoir lieu, comment dire, on n'a pas les moyens de donner, de définir l'identité des gens qui viennent au service. Et ensuite, parce que c'est une crainte exprimée par certains, par une minorité, mais parfois ça nous est arrivé d'accueillir par exemple des femmes sur un autre temps. Un autre temps que celui où le CARUD est ouvert, en fait, pour permettre un accueil individuel. Alors ça me permet de le rajouter, en fait, on a réservé le mardi à cet accueil individuel.
D'accord.
Ouais. Où les gens, où les usagers peuvent venir tout seuls pour un rendez-vous dans le but d'être accompagnés socialement, mmh. ou pour éventuellement une mise à disposition de matériel quand c'est difficile pour eux de côtoyer le collectif, mmh. Puisqu'il y a des usagers en fait qui viennent pas tant pour le matériel mais pour le lien social,
pour discuter,
voilà, échanger, prendre soin d'eux via la machine à laver, la possibilité de se laver, prendre soin d'eux en passant du temps autour de la table et relationner, quoi.
D'accord. Tu as commencé par parler de l'accompagnement. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai cru comprendre que vous aidiez, en tout cas vous accompagniez les usagers et votre public surtout à l'accès aux soins et aux droits.
Donc vous les aidez dans des démarches administratives de temps en temps ?
En fait, ça c'est toujours sous-tendu par les professionnels de l'équipe, à savoir est-ce qu'ils bénéficient d'un accompagnement dans un centre d'addictologie, est-ce qu'ils peuvent avoir un rendez-vous chez le dentiste ? Donc oui, après on fait en fonction de nos moyens en termes de ressources humaines et de temps.
Parce que ça doit être un problème quand même les ressources humaines dans ce genre de centre d'accueil. Trouver du monde déjà pour les associations, c'est compliqué.
Eh bien, j'en profite pour passer une annonce.
Bien sûr.
Comme quoi, on recherche des nouveaux candidats, quoi. Enfin, des personnes avec un profil médico-social au niveau du métier.
D'accord.
Tout à fait.
Donc, il faut avoir fait quelques études quand même pour faire partie de l'équipe.
Actuellement, on est une équipe composée de deux éducatrices, d'une infirmière, de Mélusine qui est conseillère ESF. En fait, il y a différents profils qui pourraient correspondre, même animateur. Alors, je n'engage que moi. Moi, je suis éducatrice spécialisée de terrain. Là, il faut candidater auprès de la direction. Mais je pense qu'un profil animateur, infirmière, assistant social peut tout à fait correspondre.
D'accord. Et comment ça se passe, donc, la rémunération ? Est-ce que la majorité de votre temps, vous le passez en bénévolat ? Ou est-ce que vous êtes rémunéré pour ce que vous faites ?
En fait, nous sommes des salariés.
D'accord.
On travaille à Droguette, il n'y a pour l'instant pas de bénévoles.
Ok. Eh ben, on va poursuivre avec le côté réduction des risques. Donc vous proposez plusieurs services, donc tu l'as dit tout à l'heure, le prêt de matériel, tout ça. J'ai vu que la Distribox existait. Je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, tout à fait. En fait, avant de répondre à ta question, il faut que je te parle de la politique de réduction des risques.
Bien sûr.
En fait, ça s'est intégré à cette politique-là qui est née au cours des années 93. C'est une période où le sida ne cesse de contaminer, de se développer, malheureusement. Par exemple, en 87, c'est le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui cite ce chiffre-là. Il y a parmi les nouvelles personnes contaminées par le virus, 30% étaient consommatrices en injection.
D'accord.
Et comme disait un ancien collègue, presque merci sida. C'est-à-dire que cette situation catastrophique a permis d'amener une autre façon de penser l'accompagnement des usagers de produits. En fait, l'ancien système, c'était usage de passer à une abstinence via le sevrage. Mais cette réponse-là n'est pas suffisante. Et on sait bien, beaucoup de gens qui réalisent un sevrage retrouvent ensuite leurs conditions de vie, leur environnement, et peuvent la plupart du temps reprendre leur consommation, parce que c'est un réflexe qui est intégré, et c'est difficile en fait de sortir de ça. Et donc le problème n'était pas résolu, voire pire, conduire à des situations d'overdose. Parce que quand on fait un sevrage, on remet le compteur à zéro, et à la sortie, si on consomme comme avant, risque d'overdose. Et donc il y a des associations qui se sont regroupées, à l'époque Techno Plus, Médecins du Monde, et puis des politiques pour créer une nouvelle politique, celle de la réduction des risques. Donc elle a fait naître trois principes au cours des années 90, à côté du soin, de permettre un accès au matériel d'injection, une intervention en milieu festif et l'accès à des traitements de substitution. Ces deux traitements, c'était Subutex, puis ça a été méthadone vers les années 2000. En tout cas dans l'Orne, méthadone.
Et aujourd'hui, c'est encore le cas ?
Et c'est toujours le cas.
D'accord.
Et donc, pour revenir à l'accès au matériel d'injection stérile, les pharmacies ont pu vendre des seringues sans que les usagers n'aient d'ordonnance. Donc ça a facilité l'accès à du matériel pour une utilisation unique, au lieu d'utiliser 10 fois et avec plusieurs personnes prêtées. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que des distributeurs ont été installés. Des distributeurs que tu as nommés...
Distribox.
Mm-hmm. Et donc, dans l'Orne, il y en a deux. Il y en a, un à l'hôpital d'Argentan, à l'entrée, et un autre à l'hôpital d'Alençon. En fait, ces deux-là sont toujours restés en place, parce qu'il y a, dans le projet, il y avait celui à l'Aigle. Mais ça nécessite un partenariat local pour assurer les réassorts et assurer l'entretien de la machine.
Oui, que la machine fonctionne toujours, parce que ça a été beaucoup le problème au début des années 2000, quand ça a commencé à exister, c'est que les machines bloquaient ou qu'elles n'étaient pas approvisionnées, en fait.
Tout à fait. Et en fait, les deux machines, Argentan et Alençon, ont été installées en 97.
D'accord.
Ça commence à dater.
Oui, mais ça veut dire que si elles sont restées, c'est que ça fonctionne bien, la communauté essaye de bien les faire fonctionner.
Les professionnels, ouais. Par exemple, ça nécessite d'avoir des partenariats. Alors, à Alençon, c'est nous qui assurons les réassorts et les visites quotidiennes.
D'accord.
Parce que c'est de la petite mécanique qui peut vite se coincer en cas de froid ou d'humidité. Et à Argentan, c'est également Drogaine, mais on a vraiment un bon partenariat avec les urgences qui prennent le relais également au niveau de leur site des urgences et en matière de mise à disposition de dasseries, de boîtes qui permet de jeter les seringues à l'intérieur plutôt que de les mettre dans les ordures ménagères.
Ok. Donc tu disais qu'il y avait Drogaine aussi à Argentan. Est-ce que vous faites des choses ensemble ou est-ce que vous êtes vraiment divisés une à Alençon et l'autre à Argentan ?
En fait, il n'y a qu'un service, Drogaine, qui fait partie de la Fondation Normandie Génération, qui se situe à Flers. En fait, Drogaine n'est situé qu'à Alençon et assure le réassort des deux Distribox.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres mises à disposition comme ça, de matériel de réduction des risques ou autre ?
Alors, il y a un projet qui a démarré en janvier d'équipe mobile. Donc, c'est un partenariat XAPA, Centre de soins en addicto, et du CARUD.
Ça fait un moment que vous voulez avoir ce centre mobile.
Le projet a dû être déposé en 2023 et l'équipe est en train de se constituer. Et ça permettra d'aller vers les usagers loin du CARUD, quoi. Voilà, jusqu'à Tingebré par exemple, pourquoi pas, Domfront, Argentan, Gacé. Des gens qui sont assez isolés en fait et qui peuvent pas avoir de matériel spécifique auprès des pharmacies. Parce que dans les pharmacies, à l'heure actuelle, tu ne peux acheter que des kits d'injection.
D'accord.
Et tu ne peux pas acheter des roules tapaille pour sniffer ni des pipes pour inhaler.
D'accord. Et donc, vraiment, ce but d'être mobile, c'est vraiment quelque chose que vous pensez être important parce qu'il y a très peu de monde, je suppose, qui est capable de venir à Alençon juste pour ça. En fait, vous avez majoritairement en public, vous avez des Alençonnais.
Oui, tout à fait. Ouais. Il y a quelques personnes, qui viennent d'Argentan, de Flers, mais c'est très minoritaire.
Ouais, c'est parce qu'ils sont poussés pour venir vers vous.
C'est parce qu'ils ont un moyen de locomotion, voire la possibilité, ou alors en prenant le bus départemental à 2,90€.
C'est ça. Et ça reste aussi ponctuel, à l'inverse de nos usagers alençonnais qui sont là quand même régulièrement.
Oui, qui vient. En fait, merci Mélusine, parce que ça me permet d'indiquer que la mise à disposition de matériel, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Mais le CARUD, notamment à Alençon, c'est surtout le lien social et l'accompagnement.
D'accord. Tu parlais donc tout à l'heure de lien social et d'accompagnement. Vous proposez des services comme la machine à laver ou se laver. Est-ce qu'il y a d'autres services complémentaires à ça ?
Ils peuvent aussi prendre leur douche. On met aussi à leur disposition des kits hygiène, composés, je crois, de gel douche, de brosse à dents, dentifrice, enfin la base de l'hygiène, quoi.
D'accord. Et serviettes hygiéniques pour les femmes aussi ? Ou c'est plus compliqué ?
En fait, on a eu des dons d'asso. Mmh. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Mmh. Mais oui, il doit en rester quelques-unes.
D'accord. On va faire une petite transition donc sur le service de prévention et d'éducation pour la santé. Donc tu me disais hors interview que pour l'instant c'est un peu compliqué par manque en fait de personnel finalement. Mais sinon sur ce que vous faisiez avant, donc vous faisiez de l'éducation et de la prévention à la santé comme ça en milieu scolaire.
Tout à fait. Pendant longtemps en fait nous avons animé des séances d'information ponctuelles.
D'accord.
Auprès de groupes classes où nous venions échanger avec eux sur les risques en lien avec l'usage de drogue, avec un grand D majuscule. Mmh. On s'est rendu compte que mieux valait développer les CPS, les compétences psychosociales.
D'accord.
En fait, c'est les habiletés qui te permettent de faire d'autres choix à un moment donné, de faire d'autres choix que l'usage de produits. En sachant que quand on fait le choix de prendre un produit, c'est que ça répond à un besoin.
D'accord.
À un besoin humain. Fondamentale, c'est-à-dire les besoins fondamentaux, c'est de se sentir exister, de se sentir apprécié, de se sentir en sérénité.
Mmh.
Et quand on va vers les produits, et ben c'est qu'il n'y a pas tout ça, quoi. Et en fait, une action ponctuelle, comment dire, on ne peut pas donner les outils. On peut informer, mais c'est tellement limité comparé au fait d'essayer de transmettre quelque chose qui puisse aider à faire un autre choix.
D'accord. Et donc, est-ce que quotidiennement, vous essayez de trouver des alternatives aux produits ? Des alternatives comme, je sais pas, l'art-thérapie ou des choses comme ça ?
Alors, ça pourrait être des choses qu'on développe auprès des usagers du Carude.
Mm-hmm.
Comment dire, on a choisi de développer plutôt les activités. Le rapport à la nature, le rapport à la nourriture. En fait, mais pour revenir au sujet de la prévention, par exemple, les dernières actions que moi j'ai animées, ça tendait plus à développer leur capacité psychosociale.
D'accord.
Donc, par exemple, sur 6 séances, les aider à faire des choix, proposer des mises en situation pour dire non, réaliser ce qui peut se passer si je dis non. Comment je peux dire ce non-là ? Tout en gardant la relation avec celui qui me propose, par exemple, un produit. Et puis, j'anime un atelier de communication bienveillante. Ça, auprès d'adultes qui viennent soit en tant que parents, soit en tant que professionnels, auprès de jeunes ou d'adultes, pour qu'ils puissent être amenés eux-mêmes à transmettre ces principes de bienveillance, quoi, qui aident à rester en lien avec la personne.
D'accord.
Même si celle-ci exprime des choses dans un registre agressif ou qu'on pourrait prendre comme agressif.
Donc ça vous arrive de recevoir des parents qui sont troublés par les addictions de leurs enfants ?
Alors, dans le cadre de l'atelier de communication bienveillante, en fait, c'est un atelier sur 6 séances où il y a une majorité quand même de professionnels qui s'inscrivent. Ils sont tenus D'accord. de participer aux 6 séances. Après, les parents, ça nous arrive de recevoir des appels. Mmh. Il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, un papa qui venait de découvrir l'usage de son fils, quoi. Donc, le message, c'est de pouvoir... réussir à en parler si émotionnellement c'est possible et si émotionnellement c'est possible d'entendre les réponses aussi.
Oui, c'est vrai.
Ce qui n'est pas évident. Après, il y a des structures adaptées pour ça, pour répondre aux besoins des plus jeunes, des moins de 25 ans. C'est la consultation jeune consommateur.
D'accord.
Qui est assurée par le centre de soins en addicto à Alençon.
Ok.
Donc ils ont des permanences. À Argentan, à L'Aigle, à Mortagne, je pense à la Ferté-Massé, il y a aussi une CJC.
Ok. Ouais. C'est plutôt penché sur la psychologie, donc avec ces jeunes.
Eh bien, je sais qu'à la CJC, il y a une psychologue, mais elle ne doit pas être la seule. En fait, quand on reçoit des jeunes usagers, c'est plutôt de leur permettre de faire le point sur leur usage, en termes de bénéfices, d'inconvénients, déjà de réussir à se poser, de comprendre à quel besoin ça répond.
D'accord. Pour revenir rapidement, j'avais une question par rapport au milieu scolaire quand vous faisiez des interventions. Comment vous étiez accueillis déjà par le personnel et ensuite par les jeunes ?
Alors l'idéal, quand on intervient en milieu scolaire, c'est de travailler l'action avec un référent. Mmh. Alors c'est souvent une CPE, l'infirmière scolaire, ça peut être un prof. Et puis que cette action démarre par l'accueil de ce référent de l'établissement.
D'accord.
En général, les jeunes publics sont plutôt partie prenante. Bon, ils loupent une heure de cours.
Oui, ils sont.
Hein? Et puis, comment dire, c'est, enfin, notamment avec les actions en mode développement des compétences, c'est un temps d'échange, de considération. Donc,
oui,
ça se passe.
C'est apprécié.
Ouais.
D'accord. Et ben, on va faire une transition. J'ai vu que vous aviez créé un livret Faites gaffe avec des étudiants.
Oui, alors ça rentre dans l'action réduction des risques du CARUL, justement. Et ça me plaît bien, parce que, comment dire, le principe du livret, justement, c'est de faire avec les pairs, avec les semblables, on peut dire.
Créé par les étudiants,
c'est
pour
ça.
Les étudiants.
Ouais, okay. Tu as tout à fait bien résumé. Et plutôt, comment dire, que de choisir les thématiques dans notre bureau, en fait, on a créé un groupe avec des étudiants du secteur d'Alençon, et c'est eux qui nous ont soumis ces idées-là, et qui ont contribué justement à transmettre des infos, notamment sur la loi, puisqu'il y avait un étudiant en loi, enfin en droit, excusez-moi, et qui a pu ajouter sa patte, notamment sur le tapage nocturne. Alors moi, ça m'a permis d'apprendre quelque chose. Par exemple, le fait de faciliter sciemment par aide ou assistance la préparation ou la consommation des contraventions, eh bien, c'est puni. Comment dire, c'est une infraction, quoi. C'est okay. Si le collectif qui organise l'événement, la fête ou le festival, anticipe une récolte de fonds en vue de payer l'amende.
D'accord.
Et surtout communique pour ça, eh bien, comment dire, ça peut être puni et soumis à une amende de 68 euros.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce petit livret ?
Alors, il y a plein de choses, comment dire, comment parer à un état de coma éthylique, d'overdose, comment ne pas reprendre le volant en étant sous effet. Donc l'alcool, tout le monde connaît, hein, c'est à peu près une heure et demie d'attente par verre. Mm-hmm. Alors c'est une grosse fourchette. Hein. Par contre, là où ça commence à être plus difficile, notamment avec les stupes, c'est que le cannabis, ça reste beaucoup plus longtemps. Enfin, c'est pas forcément. Enfin, si on demande aux usagers, ils en fument un joint, ils vont parler de 2-3 heures l'effet. Et moins pour certains en termes de temps. Par contre, c'est traçable dans la salive, jusqu'à 12 heures pour un consommateur occasionnel, voire 72 heures pour quelqu'un qui consomme régulièrement. Donc, c'est des informations que les jeunes autour de 25 ont. Hein. Mais c'est nécessaire de le rappeler, puisque quand on est impliqué dans un accident, voire un accident où il y a des blessés ou des décès, en fait, ça peut aller jusqu'à l'homicide involontaire, quoi. Donc c'est ultra dommageable, en fait.
Donc ça permet aussi de prendre conscience.
Eh bien, oui, j'espère que ça permettra aux jeunes publics, jeunes ou moins jeunes, hein, de faire des choix, des choix avisés.
Du coup, on va faire une petite transition, encore une fois, sur les risques en milieu festif. Donc, exemple concret, votre présence sur le Blizzard Festival 2025, c'est 9 et 10 mai.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous allez proposer aux festivaliers ?
Eh bien, on va, animer un stand avec une partie mise à disposition de matériel. Mmh. Alors, en festival, il y a le triptyque consommation, alcool, tabac, cannabis.
Ouais.
Donc, on aura du matériel en lien avec ces produits-là, dont quelques dépistages à l'hiver. Mais vu que ça coûte super cher, on en a quelques-uns, enfin, sur les doigts de la main. Mais en tout cas, des affichages correspondant aux durées de positivité, ça oui.
Mm-hmm.
Nous aurons également des condom cups, ou des couvre-verres.
Ouais,
Des capotes de verre.
Ouais, voilà, exactement. Des préservatifs pour verre.
Ouais. Donc ça, le public est très demandeur, puisque à chaque fois qu'on intervient en milieu festif, on rencontre des couples ou des festivaliers qui ont vécu ou qui ont entendu parler...
De un cachet dans le verre ou des choses comme ça.
Bah, en tout cas, d'un effet qu'ils n'arrivaient pas à s'expliquer.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Ils ont l'habitude de boire un verre de bière, mais finalement, ce verre n'a pas fait l'effet...
qui connaissent.
Par exemple, quelqu'un qui me dit oui, j'avais un effet hallucinogène alors que je n'ai pas pris de LSD, quoi. Mmh. Donc ça peut mettre sur la piste de quelque chose qui a été mis à son insu. Donc en fait, on a soit les Codum Cup, mmh, ou bien des petites bandelettes qui permettent de tester l'intérieur de son verre. Si on a justement un sentiment d'être sous effet qu'on ne s'explique pas, ça peut être le moment de tester.
Ça permet de savoir et donc de se faire une idée quand même, au lieu d'être
dans le flou.
Dans le flou complet.
Voilà, et de demander de l'aide, quoi, d'aller voir l'organisateur, de pas rester seul et surtout de se mettre, de se rapprocher de personnes en qui on a confiance.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous proposez sur votre stand?
Alors, on a souvent de l'eau, on propose notre écoute, notre présence. Pour l'instant, je ne pense pas qu'à Blizzard, il y ait de chill-out de prévu, mais s'il y en a un... En tout cas, le stand peut être un lieu où les gens peuvent venir s'asseoir, se mettre un peu à l'écart.
Se poser, ouais.
C'est ça, d'accord. Ouais. Soit à l'occasion d'une montée de produits ou de gens un peu isolés qui ont perdu leurs amis.
Ouais.
Alors ça nous arrive souvent par exemple à Arsonic.
Ouais.
Donc c'est bien d'avoir un lieu éclairé et repérable.
Ok. Est-ce que vous proposez des choses que d'autres stands de prévention sur des festivals proposent, comme par exemple des préservatifs?
Bien sûr, préservatifs, ouais, internes, externes, du gel lubrifiant, des digues dentaires, des éthylotests, des roules tapailles.
Ok. Et est-ce que vous proposez aussi des analyses ton prod qu'on peut voir sur certains festivals?
Non.
C'est pareil, c'est comme la languette en papier dont vous parliez, pour les verres de bière ou quoi. Mais c'est pour savoir ce qu'il y a concrètement dans le stupéfiant que tu as acheté en festival.
D'accord, alors ça doit concerner la MDMA ou la MD, j'imagine?
Probablement.
Ok. Ouais.
J'ai vu ça sur plusieurs gros festivals.
Après, d'accord.
C'est peut-être par rapport aux gros festivals, ils préfèrent prendre, je sais pas, des organismes de prévention qui sont plus adaptés.
Ok, bah en tout cas, merci de l'info.
De rien.
Parce que je vais rechercher.
D'accord, ok.
Ouais.
Et donc, est-ce que vous aviez d'autres choses à partager à nos auditeurs ou aux gens qui nous écoutent?
Eh bien, oui, et surtout aux organisateurs d'événements, puisque c'est une activité qui est assez conséquente quand même. Hein. Par exemple, en 2024, on a fait 15 interventions en milieu festif. Alors, c'est pas le même genre d'intervention. Hein. On a fait 9 interventions directes, en nous déplaçant vraiment lors de l'événement. Et puis, 6 mises à disposition de matériel auprès de collectifs pour qui on ne pouvait pas être présent.
D'accord. Donc, vous proposez quand même de mettre à disposition...
Bien sûr.
D'accord.
Ouais. Pour qu'ils puissent relayer, en fait, la réduction des risques. Mmh. Comme on ne peut pas être partout, notre objectif, c'est aussi de transmettre, pas que le matériel, mais de transmettre les messages de RDR pour que les organisateurs puissent à leur tour le transmettre auprès de leur public.
D'accord, donc vous pourriez organiser des séances de formation?
Eh bien, depuis 2022, on organise cela.
D'accord.
Donc c'est une journée, la plupart du temps. Et puis là, on a changé un peu notre calendrier pour être réactif avant la saison. Donc on en propose une, voilà, le 26 avril à Alençon, donc ça va être une demi-journée, puisque là on est un petit peu court au niveau temps. Donc s'il y a des organisateurs d'événements festifs qui souhaitent s'inscrire, on propose le samedi 26 avril à Alençon l'après-midi, 13h30 à 17h30 probablement, une demi-journée de sensibilisation à l'utilisation du matériel, pourquoi il existe, et aux différentes modalités aussi de mise à dispo. Est-ce que c'est un stand ou est-ce qu'il n'y a pas de stand parce qu'il n'y a pas des moyens humains, justement,
oui,
il y a des collectifs où ils sont pas beaucoup de membres actifs, ça peut être des maraudes avec sac à dos.
Oui, ou des propositions en bar aussi.
Tout à fait, oui, qui peuvent être un super relais. Oui. Donc ça pourrait être les barman, par exemple, qui viendraient à la journée de sensibilisation.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs de former des barman vraiment de bar de ville?
On s'est rapproché d'un café qui se trouve à Alençon, Barricade, que vous devez connaître, pour une mise à disposition de matériel. Mais oui, ce serait tout à fait intéressant, quoi. Surtout des cafés qui ont une vie conséquente auprès des étudiants.
Oui, voilà, c'est ça, les cafés ou les bars qui accueillent des soirées étudiantes.
Oui, ouais, tout à fait.
Et avant de terminer cette interview, on t'a pas beaucoup entendu parler, mais l'usine,
En même temps, ça se comprend, tu viens d'arriver dans le milieu, tu es plus jeune que Cécile, et aussi tu dois avoir sûrement moins d'expérience que Cécile dans ce milieu, mais quand même, en tant que nouvelle génération de professionnels de la prévention, comment tu pourrais présenter ou même définir votre action en milieu festif ?
Alors je pense que en fait, l'environnement festif est un lieu clé pour la prévention, parce que je pense que ce serait un endroit où la consommation sera là. Nous en fait on ne vient pas pour moraliser, mais pour offrir du matériel qui permettra de prendre soin de soi et de son entourage. Et donc l'idée c'est que la fête reste un moment de plaisir. Et si on peut permettre aux personnes d'adopter des comportements plus sûrs, et ben je pense qu'on a atteint notre objectif. Donc si vous nous voyez en festival, n'hésitez pas à venir nous voir. Je rappelle que c'est anonyme et gratuit. Voilà. Merci.
Merci à toi Mélusine, et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller voir la Prév en festival, c'est très important. Et là, on va vraiment, vraiment arriver à la fin de l'interview. Alors c'est peut-être le moment de réitérer les annonces du début, au cas où, pour les auditeurs qui n'ont pas entendu.
Oui, je relance mon annonce.
Ah oui.
Sur s'il y avait des personnes qui correspondent, qui seraient engagées, qui apprécient travailler au contact, des personnes qui sont à l'aise avec les usagers de produits et pour lesquels ils pourraient avoir un engagement aussi. Je pense que c'est nécessaire, que c'est bien en tout cas. Qu'ils n'hésitent pas à postuler. On cherche effectivement du monde pour travailler en prévention et aussi au CARUD.
D'accord.
Auprès des usagers. Une adresse mail ?
Oui, bien sûr, hein ? Les contacts.
Alors, accueil.droguede.normandie-6generation.fr.
Sinon, il y a bien un site internet où on peut retrouver tous ces contacts.
Si vous tapez Droguede sur Google, vous allez tomber sur notre... On n'a pas de site. Mais on
vous
est
référencé
sur Google et puis la FNG, Fondation Normandie Génération.
D'accord. Et donc il y a Droguede Alençon, on peut retrouver les contacts.
Tout à fait.
D'accord. Eh bien merci beaucoup.
Merci à vous.
Et comme à notre habitude sur Radio Coup de Foudre, avant l'interview, je vous ai demandé s'il n'y avait pas un titre que vous souhaitiez diffuser. Et Céline, tu m'as demandé Johnny B. Good.
C'est ça de Peter Tosh, ouais.
Ok. Eh bien merci beaucoup et sur ce, on se quitte là-dessus.
Merci à toi Marie.
Et à bientôt, donc c'est l'effet d'hiver ou bizarre.
C'est ça.